Radio Django. Culture.
Et ce soir dans Cultiver Lausanne, nous recevons Leonzio Cherubini. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes batteur et compositeur. On vous reçoit ce soir à l'occasion de votre projet sonore et visuel M2 Two Way qui va présenter en compagnie de, que vous allez présenter même en compagnie de Sylvie Courvoisier qui est pianiste et vous allez le présenter au Théâtre de Sévelin 36 du 15 au 18 décembre. Et c'est toi Jean-Luc qui a invité ce cher monsieur.
Oui, parce que Leonzio Cherubini a eu de nombreuses activités pédagogiques et je l'ai même eu comme prof quand j'ai fait une année d'école de jazz à Montreux, donc c'était magnifique de le revoir il y a une année. Et c'est vrai qu'il était aussi participé aussi à la constitution de l'International Association of School of Jazz, de David Liebman, qui est un grand musicien qui a accompagné Miles Davis. Donc voilà, c'est pour ce nouveau projet qu'on l'a invité.
Et ben voilà, c'est parfait. Alors, on a plusieurs caractéristiques concernant votre son de batterie. Il est considéré des fois comme beau, des fois comme rond, profond, avec un jeu aéré et parfois contrôle du niveau sonore. Enfin, c'est tous des éléments qui vous caractérisent. Vous êtes d'accord ?
C'est très flatteur, je vais dire. Oui, je suis d'accord. Faut le demander à ceux qui l'ont dit, on va dire. Mais oui, disons qu'il est relativement simple de frapper sur une batterie avec une paire de baguettes, mais quand à développer un son, ça requiert un certain travail de longue haleine. Et ça se fait vraiment sur les années. Oui, le son est très important, tout comme on peut tapoter sur un piano, mais entre avoir un son de pianiste
et savoir vraiment jouer. Autre chose, oui. Ah ouais. Alors vous avez commencé très jeune la batterie avec un parcours qui vous a amené à explorer de multiples aspects pour l'instrument et également parler de la musique. Alors parlez-nous de ces quelques étapes que vous avez explorées.
Alors, disons, j'ai commencé par jouer le tambour. Parce qu'en Suisse, on a la facilité d'entrer dans les fanfares. Donc mon début a commencé dans le Chablais vaudois à B. Harmonie des jeunes. Le tambour était une option parce que je n'avais pas les moyens de me payer une batterie. Et je m'étais dit à sortir de l'adolescence ou au début, enfin au milieu on va dire, que c'était peut-être une bonne idée que d'aller jouer du tambour, d'apprendre le tambour. Et puis c'était une bonne idée, ça j'ai compris longtemps après parce que à B où j'ai grandi, il y avait également un orchestre de New Orleans. Et puis, j'étais confronté à cette musique-là. Donc, le tambour, c'était aussi pour les défilés de temps en temps. Donc, si je pense à mes collègues outre-Atlantique, c'est de marching band. Ensuite, le New Orleans, c'est un peu le début du jazz. Et en fait, c'était une bonne école, un bon apprentissage. Et la batterie a suivi dès que j'ai eu les sous d'acheter une batterie.
Cumuler les tomes, cumuler les tambours.
Voilà. Et puis après, entrer dans différents styles musicaux,
oui. Oui, parce que tu as fait longtemps du jazz, hein, quand même, je veux dire, mais du jazz pur, bebop, etc. Et tout à coup, de ton évolution musicale, tu as découvert, tu as exploré d'autres champs sonores. Et ça, c'est assez incroyable. Bon, je sais qu'il y a des gens qui font du jazz qui ont aussi travaillé sur la musique contemporaine et tout, mais d'où vient en fait ce changement tout à coup d'options au niveau musique ? C'est des écoutes, c'est plutôt un travail différent qui t'intéressait ?
Je crois que c'est quelque chose qui a... Là maintenant, j'ai un peu plus de 40 ans de pratique professionnelle de la batterie ou de la musique, et en fait, c'est quelque chose qui est une caractéristique de ma trajectoire, mais c'est un peu malgré moi, dans le sens parce qu'au début, je n'ai pas commencé à jouer vraiment du jazz tout de suite, j'ai joué dans les boîtes de nuit. Moi, ça m'intéressait simplement de jouer. Je n'avais pas de grandes vues musicales ou de grandes ambitions. Ça m'intéressait, c'est tout. Et puis, c'est au fil des rencontres et des expériences que ça m'a conduit vers d'autres styles qui m'ont amené ailleurs, en fait. Et jusqu'à de projets comme celui-ci dont on parle aujourd'hui, M22Way, qui parle du métro lausannois. Et qui comprend des pièces en prélude qui sont des notations graphiques. Et donc, je suis dans des choses improvisées. C'est vrai que la musique contemporaine a été une étape importante dans ma trajectoire, oui.
Et puis, c'est un peu la mention des nouvelles notations graphiques. Hein. Ça, c'est extrêmement intéressant dans ton travail.
Oui.
Comment, à partir de notations graphiques qui peuvent être aléatoires, etc., tout à coup, il y a des chants qui se combinent, de la musique qui se combine, qui génère des sons. Ça, c'est aussi une recherche qui t'intéresse beaucoup.
Oui, ça m'a beaucoup interpellé. Et c'est à Paris, à l'IRCAM, qui est le berceau de la musique contemporaine occidentale, enfin, un pôle important, on va dire, où j'ai découvert une partition graphique, la première que j'ai vraiment vue, d'un compositeur qui s'appelle Morton Feldman. Mais en fait, J'essaie d'écrire un peu ce qu'on trouve dans cette bibliothèque. On trouve des partitions de Stockhausen, peut-être un nom connu, où ce sont des partitions extrêmement élaborées et avec l'usage des notes, du solfège. Ça n'a pas fait que ça, mais quand même, c'est très, très important. Et puis, je suis tombé sur une petite partition toute simple, dénuée de notes, et faite de carrés, de petites surfaces, qui a servi de partition. Ouais, c'est une partition pour violoncelle intitulée Projection 1. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'étais prêt à faire cette rencontre. En fait, peut-être que si j'avais eu cette partition à 18-20 ans, ça ne m'aurait probablement pas intéressé, je ne sais pas. Mais j'étais prêt à recevoir. C'est aussi ça dans les trajectoires artistiques et de vie, tout simplement. On est prêt à recevoir des choses à certains moments de notre parcours. Ouais. Et alors, ces notations, si je vais s'étaler un peu là-dessus, étendre un peu là-dessus, en fait, donc, on n'utilise plus les notes du solfège, on utilise des symboles graphiques, pour être simple, même si les notes elles-mêmes sont des symboles graphiques. Mais comme symboles graphiques, on entend des points, des lignes et des surfaces, pour être simple, dans mon travail du moins. Et la caractéristique principale, c'est qu'elles évoluent sur écran, sur des iPads, pour parler d'une façon plus compréhensible.
Actuelle de 2016.
Donc, voilà. Et en fait, la partition bouge, elle est animée. Et c'est un vœu, une recherche qui intéressait les compositeurs des années 50, qui n'avaient pas les partitions sur écran, mais sur papier, mais qui cherchaient une mobilité. Alors, ils demandaient à l'interprète de chercher avec le regard. C'est le regard qui choisissait les points de jeu, si on veut, les informations.
Donc, elle bouge. Qu'est-ce qui bouge ?
La notation musicale, elle arrive...
Sur les portées ?
Voilà. Alors, il n'y a pas de portée.
Pas de portée.
Il n'y a plus de portée.
Il n'y a plus de portée.
Il n'y a plus de portée.
C'est des jeux combinatoires, un peu.
Oui, on peut parler.
Les timbres, tu travailles avec les timbres, tu travailles avec le volume, l'intensité.
Alors, dans le jeu, oui, mais dans la notation, il n'y a pas ces indications-là. Il y a des indications... Disons, si on prend le solfège qui a rebuté beaucoup de gens, malheureusement, parce que souvent mal enseigné, en fait, les notes expriment des durées, c'est-à-dire le rythme, et puis elles expriment des hauteurs, si on s'arrête qu'aux notes. Après, il y a les signes qui expriment les intentions de jeu, les nuances, etc. Mais si on s'arrête aux notes, aux facteurs de durée et de hauteur, avec des graphiques, c'est relativement simple d'exprimer ce genre d'indications, de donner ce genre d'indications. Des enfants le feraient très, très facilement. Si on demanderait à un enfant de traduire par un dessin ce qu'il entend, il irait certainement des notations qui se rapprochent des notations graphiques.
Bon, alors du coup, avec ces notations graphiques, c'est ce que vous avez utilisé pour votre projet M2 Two Way ?
Oui, en partie. Oui. On aura deux pièces en notation graphique. Il y aura deux pièces de Sylvie Courvoisier qui, elles, sont en notation normale. Et puis après, il y aura une projection donc de plus de 30 minutes, près de 40 minutes, qui a comme thème le métro, le M2, que j'ai choisi comme domaine central de ce projet. Donc je suis allé filmer au mois de février dernier le M2, de haut en bas, toutes les stations. Et puis ça nous donne une trame pour jouer. C'est ça. C'est une vidéo-partition, c'est le terme qu'on utilise.
Tu parles que cette démarche est sur l'indétermination. Elle est basée un peu sur l'indétermination. En fait, c'est des rencontres aléatoires, de nouveau. Ou bien, explique-nous
oui,
un peu plus ce principe.
Un peu le mot d'indétermination, pardon, il est apparu également dans les années 50 par un compositeur important qui est John Cage, qui a fait partie d'un mouvement new-yorkais qu'on a baptisé après coup de New York School of Music and Visual Art. C'est-à-dire que c'est des compositeurs comme John Cage, Morton Feldman, je l'ai cité tout à l'heure, et des peintres comme Rothko ou Rauschenberg qui se rencontraient. Donc c'est un vivier artistique important qui a changé la face ou certaines facettes du monde musical et pictural. Et donc, le facteur d'aléatoire, d'indétermination, oui, ça peut avoir avec l'aléatoire. Mais en fait, pour essayer d'être compréhensible, ce sont des choix, des propositions où tout n'est pas dit à l'avance.
Alors, tu as fait des rencontres durant ce parcours sur le M2, hein.
Oui.
Tu as fait beaucoup de rencontres différentes qui, tout à coup,
oui.
Tu vas un peu ailleurs.
Les rencontres d'événements, principalement. Moins de personnes, je suis discret avec les voyageurs, on se doit le faire. Mais des situations, il y a énormément de situations. Il se passe beaucoup de choses dans un métro. Oui, oui. Le métro lausannois peut paraître tranquille selon les trajets qu'on fait, mais selon à quelles heures, c'est vraiment ça bouscule, ça circule, c'est très, très vivant. Et ça fait partie de... de choses de vie. Et quand on prend le métro, pour revenir à l'idée de l'indétermination, bon, on sait où on veut aller, en principe, on sait à quelle station on monte, on sait à celle auquel on veut descendre, mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer durant le trajet. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment c'est du vécu, c'est des choses qui se...
Et tu traites l'image en noir et blanc,
hein. Alors voilà, j'ai fait un choix de noir et blanc, oui. Assez tranché d'ailleurs.
Parce que c'est ça qui est extrême. C'est aussi ces histoires sur la géométrie, sur les contrastes noir-blanc, etc. C'est des vues assez incroyables. C'est très, très beau, ça.
Oui, au fait, j'ai eu de la chance en février dernier où j'ai filmé grâce à l'autorisation des ITL. D'ailleurs, on ne peut pas filmer dans le métro comme ça, comme on veut. Il faut être autorisé. Et je suis allé une vingtaine de fois dans le métro. J'ai passé pas mal d'heures à filmer. Et j'ai eu de la chance parce que c'était une période où il pleuvait. Une petite pluie fine. Ce n'est pas les gros orages. Ce qui fait que les prises de vue en extérieur, hors des tunnels, parce qu'il y a pas mal de tunnels quand même, on bénéficie des reflets de l'eau sur le sol ou sur les toits des maisons. Donc ça a un peu métamorphosé le projet encore davantage.
Et puis en fait, finalement, tu as renoncé à la music live. Alors, les sons qui étaient synchrones, en fait, tu as renoncé à ça.
Voilà, au départ, évidemment, ma caméra était équipée de micros, parce que j'avais l'intention de mettre une bande son de ce que je captais avec l'image, et puis finalement j'ai renoncé, vous voyez, ça j'ai signalé, pour laisser plus de liberté à l'improvisation. Comme je suis avec Sylvie Courvoisier, qui est une improvisatrice, et moi aussi, voilà, il faut faire des choix artistiques quand on conçoit des projets, et là encore, le facteur d'indétermination intervient, le choix de départ n'est pas forcément le choix final.
Alors il y a quelques pièces musicales qui seront jouées avant qui la projection.
Tout à fait. Il y a quatre pièces, deux partitions graphiques et deux partitions de Sylvie qui sont plutôt côté jazz, mais je mets ça entre guillemets. Et puis après, il y a la partie du métro. Oui.
Alors, Leonio Cherubini, vous nous avez apporté un petit extrait qu'on vous propose d'écouter pour illustrer c'est votre travail donc, du projet M2 Two Way. Et ben voilà, merci beaucoup Leonio Cherubini, on vous
merci.
Souhaite une bonne prestation.
Ben, merci beaucoup.
Beaucoup de plaisir, voilà. Et on vous invite toutes et tous à aller voir cette prestation qui se tiendra donc du 15 au 18 décembre au Théâtre de Sèvelin 36. Merci beaucoup Leonio Cherubini.
Merci à vous.
Et merci Jean-Luc pour la préparation de ce sujet.
Radio Django, culture.